Une production du Studio SF.
Aujourd'hui, à l'épisode, on reçoit François Renaud, qui est un sexologue que j'ai reçu à Sexe Oral à deux reprises avec Joannie et que j'ai tellement voulu rencontrer que je me suis dit, ben c'est aujourd'hui que ça se passe maintenant avec mon chum. À parenthèse.
C'est booké un rendez-vous.
Ouais.
Camouflé en podcast.
Voilà. Comment que t'as aimé ta rencontre avec François?
Ben moi, j'ai trouvé ça non seulement hyper pertinent, le fun, mais quand je t'ai demandé, puis ça ressemblait-tu à vos épisodes à Sexe Oral, puis tu m'as dit pas du tout. Fait que je trouve ça autrement plus pertinent.
Ouais. Ben non, c'était vraiment en termes... En un couple qui... Ouais. On s'envoie des pointes dans une couple. J'envoie des pointes.
T'avais juste mangé des jujubes puis pas mangé.
Ouais, avec un café. Fait que prenez pas
mais
ça
c'est bon,
pour
c'était
du
bon.
Café. C'est intéressant. mais je l'aime, mon chum, OK?
Bonne écoute.
Allô?
Allô?
Je suis contente de te voir ici, dans ce contexte-ci. J'aimerais mettre à la table. Mettre à la table. En disant que je t'ai écrit après le podcast Sexe Oral en te disant que j'aimerais savoir une consultation avec toi, puis tu m'as dit ben non. C'est pas possible.
Non.
Fait que c'est comme je te disais avant qu'on enregistre, on a créé un faux podcast.
Un faux podcast.
Pour pouvoir avoir une
pour
consultation.
Pour avoir une consultation.
Voilà.
C'est vraiment compliqué, mais on l'a eu.
Oui, c'est ça. C'est très imaginatif.
C'est fait. T'es pris.
Oui, c'est ça.
Merci d'être là.
Ça me fait plaisir.
Oui, merci.
Je pense qu'on va... Je sais pas comment procéder. On veut une consultation avec toi. C'est ça qu'on veut. On veut
c'est
ton aide.
C'est ça l'angle?
Je pense que oui.
En gros, c'est ça. C'est un podcast qui se veut pour optimiser notre vie quotidienne, couple, personne. Fait que, tu sais, allons-y en mode conseil, vie simplement. Là, mais ouais, ça peut virer en consultation assez facilement. Puis deux personnes qui ont un bébé de 1 an et quelques... passent tous par des moments de couple ou sexuellement difficiles, des périodes plus creuses, je pense, passent tous. Et là, tu me diras si c'est une tendance, mais j'imagine que oui, tu sais, c'est comme...
C'est quasiment obligatoire.
C'est ça, c'est comme obligé, c'est un passage obligé.
Ouais.
Puis on dirait que quand on le sait, puis qu'on veut l'assumer, puis dealer avec pour vrai, ben ça risque de se passer mieux que le monde qui sont... Qui frappent des murs, tu sais, puis qui savent pas quoi faire avec ça.
Mais les gens qui sont pas du tout au courant que c'est comme une étape ou que c'est une forte possibilité, souvent se retrouvent à empirer beaucoup la situation.
Ouais, c'est ça, c'est comme pire quand tu n'y attends pas pantoute. Mais ouais,
comme
c'est
ils comprennent pas, là, mais pourquoi t'as juste accouché il y a 48 heures, là, c'est fini, là, on passe à autre chose. Puis,
ouais, puis nous, on sait.
Je dis ça en blague, mais c'est ce qui se passe des fois, là, c'est comme dans les 48 heures, là, il y a quelqu'un qui veut une relation sexuelle, souvent, là.
Ouais,
le partenaire masculin ou le père, là. Mais c'est pas inhabituel. Même si le médecin il a dit, il faut que vous devez attendre 6 semaines là, pour la pénétration. Puis,
On n'a pas été si bon que ça là-dedans. Pas deux jours. Là. Même que, tu sais, c'est ça. C'est... Ouais, ne serait-ce que ça, c'est quand même... ça commence tout de suite.
Oh, ouais.
J'allais attendre.
Ouais.
Nous, on sait c'est quoi les défis. Tu sais, en gros, on le vit en ce moment, mais... mettons, dans la liste, dans le top 5 des défis, où, ça va vers où, là, après, il faut que vous attendiez pour avoir une relation sexuelle, une pénétration.
Ouais, mais le premier 6 semaines, c'est souvent médical, là, parce c'est que si tu as accouché de façon vaginale, si tu as eu une césarienne, c'est peut-être moins compliqué. Mais tu vois, moi, ma conjointe, elle a accouché par césarienne, puis comme ça il faisait tellement mal que c'était pas tant
abdominalement,
possible. Abdominalement, c'est ça. Mais la cicatrice était trop douloureuse. Elle ne pouvait pas se lever pendant quasiment... Comme quand elle se levait pour faire juste sortir du lit, c'était douloureux. Là. Fait que,
ça revient comme au même.
C'est ça. Fait que il y en a qui guérissent peut-être plus facilement ou c'est moins douloureux. Puis ça dépend de, tu sais, ça l'a-tu beaucoup déchiré, etc. Fait que généralement, on propose là, un 6 semaines, mais il y en a qui, après une semaine... c'est pas problématique. Tu sais, ça,
ça se peut.
Ça se peut, c'est juste que de façon plus sécuritaire, c'est ce qu'on propose généralement. Fait que généralement, tu as comme cette période-là, puis là, tu as toute la fatigue. Là. Généralement, ça, c'est le premier défi, là, quand les bébés dorment pas, beaucoup d'allaitement.
Ouais.
Puis là, tout dépendant aussi comment qu'on répartit les tâches. Souvent, on donne beaucoup de tâches à la mère parce que c'est associé à l'allaitement, que le père peut tout simplement...
S'il y a allaitement.
Oui, c'est ça, s'il y a allaitement ou juste les boire. Là. Mm. Mais même par défaut, même si la mère n'allaite pas, c'est souvent elle qui va s'occuper des boires la nuit. Par, je veux dire, tradition, je te dirais que ça change de plus en plus. Là,
ouais, moi, j'ai vécu vraiment autrement. Là, mais là, je vois, là, c'est elle qui allaite exclusivement. Fait que j'ai pas refait ça. C'est deux choses très différentes.
Ouais, mais tu peux, par exemple, tu peux aller t'occuper. T'sais, c'est toi qui peux changer les couches. C'est comme à chaque fois que l'enfant se réveille, c'est pas nécessairement parce qu'il veut boire. Puis il y a le fait que des fois, les mères ont souvent le congé maternel. Puis les pères, des fois, ont juste 5 semaines. Fait qu'ils vont pas le prendre nécessairement dans les premières semaines. Fait que c'est comme, tu sais, moi, je travaille.
Ouais.
Tu sais, toi, pendant la journée, tu vas peut-être te rendormir avec l'enfant. Si je ne remets pas, qu'est-ce qui se passe. Mais...
En fait, ça peut être le père qui est plus fatigué, là, mettons, qui ne suit pas le beat.
Ben souvent, c'est que ben moi, je vais continuer à dormir puis je vais aller à mon travail toute la journée. Toi, avec l'enfant, oui, tu te réveilles, mais tu sais, ça prend des siestes, des enfants, la journée. Fait que toi, tu vas pouvoir te rendormir avec l'enfant, mais souvent, la mère, elle se rendort pas, là.
OK, ouais.
Ouais. C'est ce qu'on pense.
Il y a moyen que ça peut être synchronisé.
C'est ça, mais pas nécessairement. C'est ça. Souvent, les mères, c'est comme, il faut que je fasse la vaisselle, il faut que je mette le biberon, il faut que je fasse d'autres affaires. Fait que finalement, ils ne se couchent pas nécessairement.
Ouais, là, on peut s'enfoncer dans la fatigue extrême.
Exactement. Fait que la fatigue, c'est une des premières affaires. Et la fatigue amène généralement beaucoup d'irritation. Là, rajoute tout le sentiment d'incompétence qui vient avec un nouveau parent.
Mm-hmm.
Je ne sais pas comment faire. Je fais-tu de la bonne affaire? On n'est pas d'accord sur comment faire. Fait que là, on s'ostine sur comment faire. Mais là, la couche est trop... Elle est mise trop serrée. Tu l'as mis pas assez serrée. Là, ça l'a coulé. Là, faut que je fasse du lavage.
Ouais,
fait que
le petit pognage dans le coupe, c'est pas un turn-on non plus.
Non, effectivement. Puis là, d'un fois, t'as le... Qui se réveille la nuit? Elle se fait 3 fois, j'y vais. Là, moi, je me réveille plus. Mais l'autre, il entend le bébé pour la première fois. Pense que l'autre se réveille pas du tout. Fait que là, se réveille en bon tabarnak. Pensant que l'autre, c'est aucunement.
Ça, c'est vraiment
réveillé.
Une zone délicate. Parce que oui. Quand t'es dans ton sommeil, puis tout dépendant de la phase de sommeil, c'est tellement, là, tu veux tellement pas, là. Puis là, tu t'imagines des affaires. En plus, t'es semi-conscient, là. Elle est allée, tu sais, ou c'était à son tour. ça flippe d'une drôle de façon.
Ouais.
Aïe, aïe, ouais.
Puis souvent, quand on est fatigué.
Comme pas en ce moment, ça, là.
On est plus irrité quand on est fatigué. Fait que souvent, ça sort encore comme plus.
Ça peut virer, là.
Oui. Puis, des fois, les gens, c'est comme, tu sais, l'enfant, tu sais, il pleure. Puis ça aussi, ça peut être un irritant. Dans le cas de l'allaitement, comme c'est la mère qui peut le faire, il y a aussi un lien qui se fait. Puis, elle réconforte l'enfant beaucoup plus facilement.
Ben oui.
Souvent, c'est elle qui a le bébé plus souvent à la maison parce que le père ne prend pas nécessairement son congé. Fait qu'il y a comme une facilité, des fois, à réconforter l'enfant. Puis, des fois, les pères sont comme, tu sais, pourquoi j'irais me badrer pendant 15 minutes quand elle, ça va y prendre 2 minutes,
c'est
elle
sûr,
met au sein. C'est comme décourageant. Là. Puis, nous autres, on avait vécu quelque chose de similaire avec notre fils où, à un moment donné, il a commencé à plus vouloir ma conjointe. On était partis en voyage, puis il a comme switché. Il voulait juste ma conjointe parce qu'on était partis en voyage, j'avais changé. Je pense qu'il avait besoin de comme quelque chose de réconfortant. Puis les semaines après, là, c'était super difficile quand c'était moi. Là. C'est comme je ne pouvais plus le coucher. Il faisait des crises quand c'était moi. Il demandait toujours pour sa mère.
Ah ouais.
On avait toujours été égal. C'était chacun notre tour. Puis après le voyage, ça a complètement changé. Puis je ne voulais pas qu'elle devienne le parent par défaut pour faire comme, OK, regarde, c'est difficile, tu peux juste t'en occuper. Puis il a fallu que je continue. Puis à un moment donné, ça a flippé.
Oh,
c'est pas moi. Oui, puis à un moment donné, ça a switché. Fait que ça switch constamment, mais c'est souvent là que les gens abandonnent.
Ouais,
c'est comme, hey, regarde, c'est plus facile avec toi. Ou d'un fois, c'est l'autre, c'est comme, qui entend l'autre faire une crise. C'est comme, regarde, je vais m'en occuper, là, ça va être plus simple.
C'est
l'autre, des fois, qui empêche. Puis d'un fois, c'est les deux. D'un fois, c'est une dynamique à deux aussi. Fait que d'un fois, il y a ça aussi que l'allaitement peut créer plus quand on.
C'est
versus
ça.
Quand on fait
ça,
pas l'allaitement.
On le ressent quand même.
Ouais.
Puis, je veux dire, à chaque sieste. Puis pas parce que tu te proposes pas, whatever, mais
non,
même
c'est
moi, c'est
de...
naturellement.
Comment
comme...
endormir le bébé, l'enfant? Tu sais, moi, les outils que j'ai, mettons, ça va être poussette. Là, l'hiver, tu sais, vas-tu mettre des skis sur la poussette? On va juste l'habiller.
Des chaînes.
Des chaînes, des choses. Tu pars dans l'ordre de sidou, ski doux. Mais c'est ça, mes outils deviennent super limités, là, particulièrement l'hiver. Là, l'habiller, c'est comme full compliqué. Puis quand il est fatigué, c'est encore pire. Sinon, j'ai l'espèce de support à bébé là, qu'on appelle le rack. Il finit. Tu sais, il est comme. Il est à dos de cheval, puis il finit par. Le mouvement l'endort, puis là, je prends sa tête, puis là, je m'en vais à un endroit où je peux me lâcher. Mais tu sais, mes outils sont pas limités, mais c'est l'outil suprême, l'allaitement dans un endroit calme. Tu sais.
Mm-hmm. Ben oui. Ben naturellement, tu sais, si je suis disponible, je veux dire. Les deux, on trouve ça moins compliqué. Tu sais, moi, je trouve ça difficile d'entendre chigner pendant comme des longues minutes parce que, tu sais, quand je chie, je pourrais juste m'allonger à côté de lui puis mettre un sein dans sa bouche, il s'endort. Puis
après, quoi que c'est déjà arrivé que ça fonctionne pas pour X raisons, trop fatigué, whatever. Puis
mais c'est plus simple là, maintenant, poussette... par contre.
Hein?
C'est plus simple maintenant. C'est pour ça qu'il faut faire attention parce que là, des fois, ils grandissent. Puis là, c'est comme le père est assis dans le sofa avec l'enfant puis il va demander à la mère d'aller chercher un verre de lait. Parce qu'il est tellement habitué que c'est le parent, c'est l'autre parent qui s'occupe, que quand ils sont plus vieux, la dynamique persiste dans ce sens-là aussi. Fait que c'est sûr qu'il faut faire attention de pas trop... Tu sais, des fois, on peut s'entraider, mais il faut faire attention que le parent ne devienne pas le parent par défaut.
Ouais.
Parce que ça peut continuer plus tard, étant plus vieux.
Dans quel sens, le truc de verre de lait?
Le verre de lait, ça t'a mêlé.
Supposons l'enfant a un besoin, le père peut être à côté et l'enfant ne va pas demander au parent qui est à côté. Il va demander aux parents par défaut.
Je pensais que le père demandait à la mère d'aller chercher un verre de lait.
Non. Non, l'enfant, plutôt que demander au parent qui est le plus proche, va toujours demander au même parent les services parce qu'il a compris en fait que c'est ce parent-là qui me fait des services.
C'est ça, ça
qui répond à mes besoins.
L'équilibre dans ça est comme super important.
C'est ça. T'sais, papa joue avec moi, mais si j'ai besoin de quelque chose, c'est maman que je vais aller voir.
Ça.
Même si l'autre parent est littéralement à côté. Là, comme ils vont monter en haut, le parent il est comme sur le même étage. Là, ouais.
C'est ça, c'est un gros classique. Ouais.
Ça peut pas être un turn-on, ça non plus. Hein? Si on parlait des choses qui turn-off, tu disais
le fait d'allaiter?
Non, le fait d'avoir des accrochages durant la journée. Puis là, tu parlais de fait d'échanger les rôles comme ça, là, tout le temps. Ça, c'est fucking drainant. Puis à la fin de la journée, t'as pas nécessairement envie.
Mais là, c'est ça. C'est parce qu'on associe beaucoup les moments qui restent, les moments de sieste, à qu'est-ce qu'on va faire sur la liste des choses, des priorités. T'sais. Après, est-ce que d'avoir de la sexualité, c'est... une priorité. La grande question.
Ouais.
C'est une priorité si ça te tente, je pense.
Oui. Déjà, oui, déjà là.
Seulement.
Ouais. Mais souvent, la priorité, c'est... Même les gens, quand les enfants, ils font leur sieste, souvent, ils veulent du temps seul. T'sais, ils ont tellement été comme occupés avec l'enfant.
Oui, c'est ça.
On a décoté, etc. L'enfant, puis là, c'est comme, « Hey, je peux savoir juste mon espace, c'est silencieux. » Puis c'est comme, « T'as peut-être pas tant le goût d'interagir. » Là, ce qui est le problème, c'est quand il y en a un qui veut interagir puis l'autre veut pas.
Et là, c'est ça.
Puis souvent, le fait comme d'allaiter, tu sais, t'as un enfant sur toi pendant vraiment longtemps, pendant une journée. C'est comme, t'as peut-être fait ça toute la journée. L'autre arrive, a eu aucune affection, a pas touché au bébé, a pas comme, tu sais, eu la peau douce. Puis là, c'est comme, moi, j'en veux là, de l'affection. Puis souvent, la mère qui allaitait est comme,
l'affection toute la journée.
J'ai eu ma dose, puis parce que ça continue, là, ce soir. Là, fait que c'est comme, tu sais, j'ai pas le goût d'embrasser, j'ai pas le goût de me toucher, je veux avoir ma bulle. Quand t'en as plusieurs, là, c'est comme, t'as celui que t'allaites, puis là, t'as les autres qui sont comme, maman, puis qui te tirent, tu sais, ça.
C'est fait pour pas bien aller.
Oui.
À ce niveau-là. Est-ce que physionomiquement, c'est tout ça que
physiologiquement.
Faisait? Physiologiquement?
Physiologiquement, je pense.
L'autre mot n'existe pas. Hein?
Je pense pas, non.
OK. Est-ce que y a-t-il quelque chose qui se passe au niveau pendant l'allaitement? Y a-t-il quelque chose qui met off aussi? Pendant la période d'allaitement?
Oui, mais pour produire du lait, tu as de l'hormone de prolactine. Mm-hmm. Ça tue le désir.
Ah ben.
Fait que physiologiquement, les femmes sont déjà turnées off.
Sont faites pour
au-delà
off
de la fatigue puis tout ça. Puis juste quand t'allaites, en fait, tu deviens aussi. Je sais pas si infertile, c'est le bon terme, là, mais t'es plus.
Oui, c'est un moyen de contraception à 75%.
Ouais. Ben, faut que tu allaites vraiment là, à des heures très précises pendant comme 6 mois. Là, mais, comme,
des heures précises?
Mais pas des heures précises, mais faut que le délai entre ne soit pas trop espacé. Là, comme
ça, on est correct. Hein?
Faut que tu suives vraiment. Ben,
comme là, aujourd'hui, dans notre pause de parentalité, on va avoir un 5 heures. Ça, je sais même pas si c'est déjà arrivé. 5 heures au moins, pas d'allaitement.
Ben, c'est d'habitude c'est juste les premiers 6 mois. Attention. Non, c'est juste les premiers 6 mois.
Non, dans mettons le sens pas que...
Après 6 mois, ça fonctionne plus. Là. Parce que l'enfant là, commence à manger. Fait que là, tu commences à espacer l'allaitement.
Fait qu'on serait dans la zone qui... Ça...
Oh, vous êtes à haut risque d'avoir un deuxième enfant. Là.
À zéro risque.
Non, haut risque. Vous êtes à haut risque. Il n'y a plus de contraception. Oui.
La contraception avec l'allaitement, c'est juste les premiers 6 mois.
Mais je suis pas dans ma semaine jamais. Genre, je suis plus dans ma semaine depuis.
Non, ça vire en consultation.
Ça vire en consultation.
Qu'est-ce avec elle?
Je ne pourrais pas te le dire, là, mais moi, de ce que je connais, c'est le premier 6 mois. Puis après ça, généralement, tu commences à nourrir le bébé avec des solides. Et donc là, tu espaces les allaitements.
Ce qui fait en sorte que
tu n'allaites pas assez souvent.
On allaite encore, j'allaite encore vraiment beaucoup.
Ah, OK, bon, ça pourrait potentiellement l'expliquer.
Le bébé, même qu'on se demande même si c'est normal, il est comme...
Attends un peu, ça
tout
arrive.
Tout le temps sur le sein.
Il y en a des heures, 2 heures, 3 heures, des fois 100. Okay. Je pense que c'est normal.
Assez rare. Tu sais, je te dirais qu'il tète au moins à un moment donné, une fois par heure. Là.
Fait que ça pourrait expliquer.
Mais ça se peut qu'il tète pour des raisons plus comme affectives.
Oui, oui.
Oh, oui, c'est sûr.
C'est comme il tète, mais...
Mais
est-ce que il n'est pas tant en train de boire. Là.
Physiologiquement, est-ce que ça garde l'espèce de contraception ou le mood de contraception? Là?
J'ai l'impression qu'il boit encore beaucoup de lait maternel. C'est un feeling que j'ai.
De façon contraceptive.
Non, mais c'est dans le sens que...
Pas de frère, pas de sœur.
Non, c'est ça.
Je reviens souvent là. Je serai le dernier. On peut garder ça flou, mais il faut mettre ça au clair. Tu sais. Parce que le moment où ça va arriver... Ça, tu veux dealer avec de façon prévue, pas imprévue dans ce cas-ci.
Ben, si je serais vous, je prendrais pas de risque et j'utiliserais une autre méthode de contraception. Parce que moi, dans ma compréhension, c'est faut que tu allaites genre comme aux 2 ou aux 3 heures, puis les premiers 6 mois, puis après ça, c'est plus une méthode de contraception. Ça se peut que ça soit différent là, dans ton cas, parce que, comme tu dis, tu n'as pas de règles, donc peut-être qu'il y a quelque chose d'autre à ce niveau-là. Là. Mais,
il est très allaité, ce bébé-là.
C'est ça. Mais tu vois, moi, je n'étais même pas au courant, en fait, que les menstruations arrêtaient. Je pensais que tu étais juste comme pas fécond, parce que tu peux quand même avoir des menstruations, puis ne pas
être... J'ai plus de menstruations.
Ne pas être fertile.
Mettons, les premiers mois de ma... T'sais, après avoir accouché, là, mettons, je saignais sans cesse.
Okay.
Puis ben, à peu près... 2-3 mois après, là, le bébé devait avoir 3 mois.
Okay.
Je suis jamais retombée dans ma semaine depuis.
Okay.
Puis ça m'était jamais arrivé de ma vie. Là.
Ouais, ça sort un peu de mes compétences, parce que ça roule comme un médecin. Là, mais comme, moi, comme quelqu'un qui me dirait ça, je dirais tu devrais aller consulter ton médecin.
Ouais.
Comme moi, ça me surprend que même si tu allaites quand même beaucoup, que tu ne t'as pas de menstruation.
Comment je dis à Claude, mettons... Ouais, c'est vraiment les hormones et c'est quelque chose de temporaire et pas un état permanent chez moi de ne pas avoir de libido, mettons.
Tu veux le dire autrement de comment tu viens de le dire?
Ouais, mais comment, mettons, je peux faire comprendre ça? Que c'est vraiment ben là,
c'est
temporaire.
C'est dit comme ça, ça marche, je comprends. Tu sais. C'est une sacrée bonne raison.
Ouais.
C'est la nature.
Ouais, mais dans le sens que c'est facile de se dire... Mettons, elle n'a jamais été comme ça. Elle est comme ça en ce moment. Fait que ça veut dire que c'est sa vraie nature. Dans le sens que... Parce que ça faisait pas super longtemps qu'on était ensemble, Claude et moi, quand je tombe enceinte. Fait que c'est facile de se dire « Ah, ben c'est juste comme ça qu'elle est une fois qu'elle est dans une relation à long terme. »
C'est ça, il y a un moment où ça fait plus longtemps, ce moment-là, qu'est-ce que t'as...
Qu'est-ce que t'as connu avant?
Fait que tu dis « Ah, c'est ça la vraie... »
Mais c'est souvent la crainte dans ces genres de périodes-là, là, tu sais, que ce soit par rapport à...
Ouais,
à,
c'est devenu comme ça pour toujours.
Un mettons. Accouchement ou souvent...
C'est combien
c'est comme...
de temps, ça, d'habitude? C'est, quoi, c'est ça? Quand est-ce que les hormones, whatever ce que ça fait, là, toutes les raisons pour, au-delà des turn-off, là, la période qui met off hormonalement?
Ben, je te dirais que c'est généralement beaucoup en lien avec l'allaitement.
OK.
Puis je te dirais que... C'est pas tant le plus gros facteur de la situation.
OK, c'est ça.
Dans le sens où
les autres choses qu'on jasait tout à l'heure.
Oui, mais les autres choses, mais aussi comment qu'on va gérer le fait qu'on est dans cette période-là. Donc, tu sais, si ça crée beaucoup de conflits ou si on se force à avoir des relations sexuelles dans ces moments-là, tu prolonges en fait la situation. Mais souvent, c'est comme, mais je vais quand même prendre ça parce que sinon, j'en aurais pas. Mais c'est parce que plus tu fais ça, moins tu vas éventuellement en avoir en réalité. T'sais.
C'est ça l'erreur que les gens... potentiel.
Oui, c'est ça l'erreur que les gens font. C'est comme des fois, il faut prendre un peu son mal en patience, si tu veux. Mais qu'est-ce qui va faire que ça va être mieux géré, c'est que c'est pas parce qu'on n'est pas capable d'avoir des relations sexuelles ou qu'on n'a pas une forte libido ou un très grand désir hormonal. Ça fait pas en sorte que l'affection ou la sexualité doit complètement disparaître. Donc, les gens qui vont mieux traverser cette période-là, il va quand même avoir des moments où que on va se donner des moments de couple, on va quand même prioriser à certains moments juste des moments ensemble plus intimes.
Puis les moments de couple sont vraiment importants, là?
Oui.
T'sais, sans passer du on a un moment, puis on essaie d'avoir une relation sexuelle, mais juste ce soir, on va au resto, puis on se regarde dans les yeux.
Oui. Oui, tout à fait.
Ce que nous, on n'a comme pas eu l'occasion de faire assez aussi, mais personnellement, là,
je trouve que... Est en manque de ressources.
Retrouver le... Tu sais, je disais ça dans l'auto en m'en venant, mais tu sais, il y avait je sais pas si c'était un TikTok où qui disait quand t'es épuisé de ton enfant, là, puis que là, tu perds patience, puis que tu as l'impression que tu l'enverrais dans sa chambre ou tu le laisserais pleurer longtemps. Tu sais, il y a un moment où là, tu regardes ses petites mains, puis tu te rappelles à quel point c'est une petite personne. Puis là, tu reviens comme à la base, la vision de base. Ben, les petites mains du couple, c'est se retrouver, se regarder dans les yeux, avoir envie d'être ensemble. C'est sûr qu'après, tout le reste découle. Là, le désir, il est vraiment après. Là, c'est pas la première étape. La première étape, c'est se retrouver, se regarder dans les yeux, avoir une date, puis le faire régulièrement, je pense. D'ailleurs, j'ai hâte qu'on fasse ça, puisque là, le podcast servait entre autres à ça. Ouais. On pourrait aussi aller au resto, m'emmener.
Ouais.
À quoi tu penses?
Je pense au quotidien.
T'avais l'air dans la nostalgie, l'émotion, où t'es juste full maquillé. Fait que j'interprète des choses qui n'existent pas.
Je suis full maquillée, ça c'est un fait.
Oui.
Non, ben, je trouve ça difficile sur le couple. Tu sais, on est beaucoup des colocs, on est des amis. Puis, tu sais, on...
Ouais. On le voit dans la dynamique. Là. Moi, j'appelle, tu sais, les petits indices de gossette.
De gossette.
Mettons, une gossette, c'est. Y a comme la moitié du monde qui utilise ce terme-là.
Ah ouais, okay.
La gossette, c'est.
Comme quelque chose qui gosse, tu veux dire?
Ouais, quelque chose qui gosse, mais. C'est comme.
C'est pas un irritant, ça gosse.
Le être. Genre, tu sais, moi, je me suis toujours rongé les ongles. Puis c'est comme si avant, il y a 6 mois, ça n'existait pas dans le couple. Puis là, si je suis à côté, puis je me tac un ongle, elle est là.
Mais le ça, c'est un indice. De désapprobation.
Ben oui, voir qu'avant, tu sais, c'était même pas quelque chose qui existait. Puis là, j'étais comme, OK, moi aussi, je vais le faire de bord.
Avec
le petit son, tu sais, je veux dire.
Fait qu'à chaque fois que je le fais, il est.
Puis je le fais pas parce que ça me gosse vraiment. Je veux juste montrer que t'as développé une. Je te gosse.
Ben, c'est parce que.
Puis je suis pas quelqu'un de gossant.
Non, ça, t'es pas gossant.
Jamais tu vas affecter ma confiance par rapport à ça.
Mais c'est vraiment pas. Il y a des sons. Il y a des sons. C'est plus fort que moi. Je suis à côté. Puis là, puis ça fait que, vu que je viens de le remarquer, je me concentre encore plus là-dessus.
Ça n'existait pas avant. Puis et là, moi, j'ai jamais changé.
Mais je pense que tu casses plus d'ongles entre tes dents que tu faisais.
Non. C'est ça le point. C'est que c'est strictement à cause de notre nouvelle dynamique des gossettes.
Mais des nouvelles gossettes. Si quelque chose est devenu comme... gossant, ce qui arrive, c'est que, un peu comme tu viens de le dire, comme là, tu y portes plus attention.
Ouais.
C'est comme juste parce que c'est devenu gossant, c'est... ça reste gossant. C'est comme, c'est très difficile de se défaire.
Peut-être ta vie. Peut-être que quand on va vraiment plus se retrouver puis redevenir dans l'amour...
Ça peut le devenir moins, là.
Ou peut-être que ça va me ramener tout le temps à... Tu l'aimes pas tant que ça.
Ça va être la chose qui fait... est jamais revenu. En ayant remarqué ça, c'est jamais revenu comme avant et ça nous a achevé. Ouais.
Mais c'est comme, tu sais, tantôt on parlait de la fatigue puis tout ça, tu sais, c'est plein de choses comme ça qui, en temps normal, nous gosseraient pas.
Ouais.
Mais là, on était comme irrités. ça nous a gossé plus cette fois-là, puis là, c'est devenu comme une coche de plus gossant, puis là, c'est comme, là, il y a l'accumulation aussi de ça.
Oui, les gens vivent une phase de fatigue.
Oui, c'est comme, il y a des choses au début, ça nous gosse pas, mais c'est la répétition des choses qui finissent par nous gosser.
La millième fois, ça va... Hein?
Oui, c'est ça. Tu sais, ça s'est passé plein de fois, ça m'a pas gossé, mais là, un moment donné, c'est comme, j'ai juste une journée, j'étais un peu plus irritable, puis là, je le remarque plus, puis là, c'est comme, hey, c'est vrai qu'il fait tout le temps ça, c'est vrai qu'elle fait tout le temps ça. Puis là, c'est tout le temps gossant à chaque fois qu'elle
l'a
fait.
Il y a un terme de ça, là, qui met...
Le hic.
Le hic.
Oui, mais c'est parce que le hic, c'est des fois, il n'y a pas de turning back, là, quand tu as le hic.
Il n'y a pas de way back. Mais là, on est-tu là-dedans?
Non.
Parce qu'en plus, moi, c'est... Tu sais, c'est quelque chose à laquelle je pense absolument pas, puis c'est vraiment pas tant important, mais au primaire, la fille sur qui je trippais était le bureau à côté, puis j'étais fucking content qu'elle soit à côté. Puis ça a viré en genre de hey, « tu gosses tellement, là, avec ton bruit d'ongle. » Là, j'ai fait « fuck ». Finalement, c'était un curse qu'elle soit à côté. Elle, ça l'a super gossé. C'est la seule fois, autre fois dans ma vie que ça a été un thing. Là, de...
Impossible.
Ouais, fait que là, tu représentes le...
Ah non!
La fille au primaire.
Mais non, mais pourquoi tu m'as jamais dit ça?
Je sais pas, là, c'est du bon contenu, là, mais j'avoue que j'avais. Là, peut-être j'avais même pas fait le lien. Shout-out à Camille, qui était hyper gossée par le bruit d'ongle. Oui, c'est ça.
Je comprends, Camille, c'est fucking gossant.
Ah mon Dieu, elle continue dans le même sens.
On peut se questionner sur, tu sais, qu'est-ce qui me gosse spécifiquement de ce comportement-là? Parce que des fois, c'est pas tant comme le bruit, par exemple. C'est qu'est-ce que ça représente pour moi, l'autre qui ronge ses jambes ou l'autre qui fait comme un son.
Peut-être toi.
Ou...
C'est peut-être toi, genre ta mère était full gossée de ça, puis là, t'es dans un genre de...
C'est vrai.
Non, mais tu sais, comme ronger ses ongles, ça peut être un signe de nervosité, par exemple.
Ah, OK, tu veux dire ouais, c'est ce que je suis en train de vivre pendant que je fais ça.
Oui, elle, c'est ça, exactement. Comment elle, elle interprète du
tout. Tu peux pas me
moi, j'allais de son côté.
C'est ta faute.
Non, c'est vrai.
Mais ça peut être les deux. Mais c'est qu'est-ce que ça représente, le comportement... qui gosse, en fait, chez l'autre.
Juste les sons de salive avec le off, là, il casse entre ses dents. Là, il mâchouille entre ses dents. Urgh!
Là, il déprend d'entre deux dents.
Puis là, il va passer son ongle derrière entre sa dent. Ça fait ce son-là. C'est écœurant.
Là, je lime.
Tu l'aimes?
Je l'aime.
C'est écœurant. Que bref, quand que là, moi, j'allaite de même le bébé comme ça, couché sur le côté, puis là, j'entends.
Ouais, sauf que le l'allaitement bébé fait tellement de bruit de bouche, ironiquement.
Ouais, mais c'est mon enfant.
Moi, ça me gosse pas.
Fait que là, le bébé s'endort, puis là, Claude, il fait
« Veux-tu fourrer? »
Jamais.
Non.
Jamais ça se passe comme ça, jamais je dis ça.
C'est jamais ton entrée-jeu.
Ce terme-là. D'ailleurs, avant, le mot « fourré » était interdit dans mon
cercle.
Mais... Même les gens qui me disaient « tu peux le dire, mais moi, j'aime pas ça, ce mot-là, littéralement. » Après, je me suis mis à faire la paix avec ça, puis là, je l'utilise en joke. Mais...
Oui, en joke.
Que en joke.
Mais tu sais, après, que tu essaies d'endormir ton enfant, puis la seule chose que tu entends dans ton oreille, c'est des gens qui sont salés. OK, ça suffit,
il faut passer à un autre sujet. C'est insupportable. Ça fait combien de temps ça dure, tu disais? Au niveau, c'est comme plus associé à l'allaitement.
Oui, c'est plus
associé. Les autres gossettes, ça peut être éternel.
Ben, si tu les gères mal, oui. Moi, il y a des gens qui ont eu un enfant, ils ont plusieurs enfants, puis là, sont restés dans cette dynamique-là. Il y a eu de la pression d'un bord, il y a le sentiment d'obligation de l'autre côté de répondre à ça. Il y a comme tout le. Mais là, on s'aime-tu encore vraiment? Puis là, il y a des chicanes. Puis là, tout ça, en fait, finalement, finit que 6 ans plus tard. Les gens couchent plus du tout ensemble ou très peu ou dans des circonstances qui sont pas du tout agréables.
Ou se sont laissés.
Mais ouais, ou se sont laissés ou se retrouvent dans mon bureau. Mais oui, la plupart, effectivement.
Est-ce que c'est la plupart, tu penses?
Ben, quand tu considères que 50% des gens se séparent, et ça, c'est les gens qui se sont mariés et pas les gens qui se sont pas mariés.
Oh, qui ne rentrent même pas dans la donnée de 50%.
Non, ça rentre pas dans la donnée. Toutes les conjoints de fait, on les calcule pas.
C'est beaucoup plus que 50%,
c'est ça. La majorité des relations, en fait, ne durent pas.
Avec ou sans enfant?
Oui, tout à fait. Ah oui.
OK, c'est juste compté pour le mariage. Il n'y a pas de données sur les gens qui ont eu des enfants, mettons, qui étaient...
Non, parce que c'est souvent basé sur les statistiques de gens qui se sont mariés à Statistique Canada. Est-ce qu'ils calculent aussi les conjoints de fait? Peut-être, là, mais...
des enfants, ça ferait
du sens. Parle souvent de taux de divorce. Et le divorce est associé à un mariage légal. Là, ils ont peut-être rechangé, parce que surtout au Québec, les gens ne se marient plus, ou beaucoup moins que qu'est-ce qu'ils se mariaient. Il y a plus de conjoints de fait, je pense, que des gens qui se marient aujourd'hui au Québec. Fait que je pense qu'ils ont dû peut-être réajuster un peu là, la manière de...
Fait que mais... plus de 50%.
C'est ça.
Les gens ne survivent pas à ça. Que ce soit être parent ou juste être en couple.
Oui, effectivement.
Est-ce qu'on devrait.
Des fois, les gens réalisent qu'ils ne sont juste pas compatibles aussi. Là. Il y a ça aussi.
Oui, c'est ça. Mais, est-ce que ça existe, la compatibilité?
Oui, mais souvent les gens.
Éternel.
Souvent les gens perçoivent, quand ils sont comme un peu dans le creux relationnel, sexuel, commencent à percevoir ça comme l'incompatibilité. Gèrent mal cette situation-là.
Ce qui en est une aussi, d'un certain sens.
Oui, c'est ça. Mais cette période-là, ça peut être une période où, justement, ça te permet d'aller plus loin dans ton couple, d'être plus intime, puis de travailler un peu sur soi-même. Mais d'un fois, tu fais aussi ce cheminement-là, puis tu réalises, ah, on n'est pas compatible. On ne veut pas les mêmes affaires. Mm-hmm. On les voulait peut-être, mais il y a quelqu'un où les deux ont changé. Puis là, effectivement, on est rendu ailleurs. Mais souvent, les gens voient ça comme, ah, c'est juste le début de la fin, puis ça finit par être la fin, parce qu'ils vont pas parfois chercher de l'aide ou ne se questionne pas plus.
Il faut vouloir, faut vraiment vouloir.
Oui.
Oui, vouloir, des fois, tu te demandes si ça fait du sens de vouloir. Fait que là, finalement, il n'y a plus rien. Mais tu fais des genres de... Tu sais, je dis ça parce que je l'ai fait, je l'ai vécu de plein de façons. Là, mais tu te dis, hey, si on était en garde partagée, imagine la semaine où tu es non seulement off, mais je peux faire mes affaires, que ça fait des années, je peux plus.
Ouais.
Là, tu fais les pour et les contre, puis... T'es là, le vouloir, tu sais, il y a comme plus de sens.
Mm-hmm.
Là, je sais vraiment pas que je suis rendu là, mais tu sais, on a eu ces conversations-là.
Oui, on a eu
ces
conversations-là.
Tu te figures, bon, mettons qu'on n'habite pas ensemble, c'est une semaine, hein, finalement, tu sais, il y en a que ça devient un rêve.
Wow!
Mais il y a beaucoup de monde qui font wow, tu sais, parce que ça peut vraiment être plus wow que la réalité que t'as en ce moment. T'sais.
Ouais, mais c'est jusqu'à temps que tu trouves l'autre conjoint ou conjointe, puis tu te retrouves encore dans la même affaire. Ou est-ce que là, tu habites à temps plein, mais là, il faut que tu gères une garde partagée avec quelqu'un d'autre.
Ouais, non,
en
ça
plus
peut devenir,
d'avoir quelqu'un d'autre, il que faut que tu gères d'autres conflits aussi.
Non, faut
avec,
que ce soit clair que tu n'es plus jamais en couple. C'est
fini.
Là, tu fais pas la gaffe.
Ouais, fais pas la gaffe deux fois. Habite-toi aussi.
Ne doit pas plus exister.
Comment tu deals avec le fait que tu vois un couple et tu es comme... ça, c'est compatible, puis il y a du beau travail à faire là-dessus, ou ça, c'est incompatible, il faut que ça finisse.
Ouais, est-ce que des fois, tu leur donnes des petits.
Ben, je peux pas le déterminer comme au début. Parce que souvent, les gens, effectivement, sont beaucoup incompatibles dû à des. Je vais appeler ça des égos fragiles. C'est comme, je veux que ça soit de ma manière, l'autre veut que ça soit de sa manière, puis c'est comme, on n'est pas capable de s'entendre. Mais quand tu développes une certaine maturité, tu deviens plus flexible. Et donc, tu sais, ce qui est difficile quand tu disais, par exemple, Claude, tu sais, ça vaut-tu vraiment la peine de changer? Ça prend vraiment beaucoup d'énergie. C'est difficile parce que c'est toute une question de je dois comme struggler avec mon intégrité. Les changements que j'amène, je vais-tu rester moi-même? Mm-hmm. Sais-tu vraiment qu'est-ce que je veux? Puis je vais-tu vraiment être satisfait? Puis ce questionnement-là, cette réflexion-là, elle est très difficile parce que c'est pas noir ou blanc.
Mm-hmm.
C'est où est-ce que je peux me flexibiliser puis accommoder l'autre sans me compromettre dans ce que moi je veux. Puis c'est là, effectivement, c'est avant de décider si on est vraiment incompatible, on va voir si t'es peut-être trop rigide ou t'es peut-être trop mou, entre guillemets, puis t'es trop en train de répondre aux besoins de l'autre, puis là, tu veux plus faire
ça. Et puis ça, calculer ça,
c'est ça qui est difficile.
C'est incalculable.
Puis c'est ce qu'on fait en thérapie, tu sais. Mais après ça, on va regarder pourquoi, tu sais, ça te dérange que ça soit pas comme ça. Puis souvent, c'est comme, ben, tu sais, je vais me sentir incompétent, je me sens insécure, je me sens pas aimé. Puis là, c'est quand tu commences à voir que l'obstination, c'est un peu la surface, puis tu vas voir en dessous qu'est-ce qui dérange vraiment. Là, finalement, c'est plus ça qui est important. C'est que tu travailles l'insécurité, puis comme tu as travaillé ton insécurité, mais tu t'arrêtes d'être rigide. T'arrêtes d'être explosif dans tes conflits, t'es plus capable
c'est
de parler.
Super deep, dans le fond.
Oui, c'est ça. C'est pas juste parler de ça, c'est d'aller voir qu'est-ce qui dérange en dessous de ça.
Tu m'as parlé à l'enfant.
Oui, ça pourrait être un exemple, effectivement, là, d'expérience du passé qu'il aurait pu avoir qui fait en sorte que t'es blessé. Puis donc là, tu réagis avec la blessure plutôt que de réagir comme un adulte qui va bien gérer sa blessure. Puis souvent, les gens, c'est toi, réconforte-moi, toi, évite de toucher à mes blessures. Pour que moi, je me sente bien, mais là, on stagne dans ce mode-là. Puis là, les deux demandent ça. Tout le monde est comme, toi, réconforte-moi, mais moi, je le ferai pas pour toi.
Mais non, c'est ça.
Puis la solution, c'est de se réconforter un peu soi-même, se gérer soi-même, puis d'être responsable de ses propres comportements. Mais on commence à avoir toutes sortes de comportements inadéquats puis malsains, puis on se sent tout à fait justifié de les avoir parce que l'autre fait exactement la même chose. Puis il y a tout le côté, des fois, vengeance qui ressort. Puis là, on est pris là-dedans plutôt que de tenter de collaborer.
Oui,
ensemble.
Le côté vengeance de t'accumuler.
Ouais.
Tu sais, on a parlé souvent de crime, quand toi, tu vas pas bien. T'sais, c'est comme si on pouvait jamais être les deux qui allaient bien en même temps. Mais ça, c'est clairement quelque chose qui doit arriver naturellement. Là. Ça, ça fait ça de même. Je sais pas si c'est une tangente qu'on voit souvent.
Oui,
là, mais...
je te dirais, qu'est-ce qui va permettre d'arrêter ça, c'est que quand l'autre va pas bien puis est comme plus réactif...
En même temps, ça peut être pratique, on s'entend. Là,
mais c'est comment moi, je gère quand l'autre va pas bien. Je suis-tu capable, moi, de pas aller mal parce que l'autre va pas bien? Parce qu'effectivement, c'est difficile quand l'autre... est comme un peu désagréable, et comme plus colérique, irritable. C'est sûr que nous autres aussi, ça nous met dans ce mode-là. Les émotions sont très contagieuses.
Mais ça arrive-tu que ça fait l'inverse? La personne va aider par défaut. Oui. Fait que là, c'est toujours un ou l'autre dans le bon sens.
Ben c'est ça. C'est que la personne, effectivement, qui est peut-être moins sur l'irritabilité, si elle est capable de ne pas devenir irritable, de ne pas accrocher dans le conflit, puis de rester plus calme, puis posée,
pour son rôle
ça inverse. Ça permet à redescendre l'autre. Mais c'est beaucoup plus facile monter avec l'autre dans un état combatif que d'amener l'autre à redescendre. Parce que des fois, quand nous, on est comme pas bien, puis que là, on essaie de faire réagir l'autre, puis l'autre ne réagit pas, des fois, ça ne nous descend pas la première fois. On monte d'un cran.
C'est ça.
Attends, pourquoi ça, tu ne réagis pas? D'habitude, tu réagis, puis là, tu réagis pas. Fait que là, je monte d'un cran. Fait que là, c'est difficile de redescendre puis de rester... Tu sais, je te vois monter d'un cran, mais je vais pas monter avec toi. Moi, je vais rester dans le calme, là. Pis c'est ça qui est difficile.
Je pense que sur ça, on a comme... On se rend complémentaire. Là. Tu vas comme m'aider quand je suis en crise en général, dans ma phase de marde, là, et vice-versa.
Je vais souvent commencer par essayer d'aider... Puis à un moment donné, quand que je vois que ça aide pas, puis que, mettons, t'es comme marabout, ben là, je veux juste finir par être fru moi aussi. Je vais faire
puis le bank, fuck off. Je l'ai passé à l'autre.
Ouais, c'est ça.
Ouais, puis là, c'est là que t'arrêtes. C'est vrai.
Mais c'est vrai qu'on fait ça. Je dis, puis là, c'est comme si c'était juste moi qui étais marabout, qui passait son marabout, mais...
Non, mais t'es comme frufru, puis là, je suis comme, qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça va être le fun, puis là, je continue d'essayer.
Qu'est-ce que tu peux faire pour m'aider?
Puis là, à un moment donné, tu fais juste être fru, puis là, je suis comme, OK, ben tabarnak de crise de mort de toute chi! Puis là, toi, tu finis par être correct. T'es comme, on mange des pâtes pour souper. Puis là, je fais, OK, là, on revient correct. C'est ça, tous les jours.
Mais y'a-tu l'inverse?
tous les jours.
Ah non, l'inverse aussi.
Je pense que toi, t'es tout de suite plus... essayer de me mettre de bonne humeur.
Ah, ça se peut.
Je sens que c'est plus moi qui vire fru que tu sois fru.
Mais toi, quand t'es fru, je vire pas fru. Puis si je virais fru, est-ce que ça t'aiderait à plus être fru?
Je pense pas.
Ah, non. Peut-être pour ça.
Moi, il faut vraiment que tu sois doux et gentil, puis ça m'adoucit.
Ah, OK. Parce qu'il y en a un qui c'est est plus toxique que l'autre.
Ouais.
Alors, on jase. C'est pas ça. Là, on a comme évoqué une situation.
Ouais. Mais c'est parce que t'es plus fâché que moi.
Mais je suis quelqu'un qui...
Il est grincheux.
Mais c'est parce que genre, ça s'améliore pas en vieillissant, ça, des fois, le grinchage. Genre, je me rappelle de mon grand-père qui était mon idole. C'était rendu un sacré... un talent viscéral de grinchage. Là,
ah
de
ouais.
Fâcher. Ah oui, puis fâcher bien, là. T'sais, puis t'as le goût d'être d'accord avec lui, puis on gossait un meuble ensemble, puis il y a un bout de bois qu'il faut revaler. Il en voulait au bout de bois, là. Viscéralement. Puis là, des fois, je me reconnais là-dedans, t'sais, puis il s'appelait Claude, d'ailleurs. Puis j'essaie de pas être ça. Ça fait pas du bien, en bout de ligne. Ça fait jamais du bien d'être grincheux.
Non, mais ce que ça fait, c'est que quand on a un trop-plein d'émotions, on a le goût de l'évacuer rapidement. Puis c'est souvent là qu'on est comme explosif ou grincheux ou on attaque l'autre ou on bardasse les affaires.
Faut-tu l'évacuer ou...
Ben, oui, il faut l'évacuer, mais c'est est-ce que je peux l'évacuer de façon plus saine?
C'est quoi les façons saines d'évacuer?
T'as comme t'as la différence entre je act out mon émotion puis j'exprime mon émotion. Puis le acting out, ça va être le comportement plus néfaste où ce que c'est comme je vais aller chercher même les gens alentour pour comme je veux les faire réagir.
Je veux que tu sois fru avec
moi. Oui, c'est ça. Ou tu sais, je veux vouloir te blesser, je vais être dénigrant, je vais être condescendant, je vais être sarcastique. Je veux te faire réagir de façon négative. Tandis qu'une personne qui a développé une certaine maturité va être capable de comme tempérer l'émotion, réfléchir à mais c'est quoi finalement qui me rend frustré, tu sais, c'est comme pourquoi je réagis de façon, comme, façon peut-être de, agressive.
De l'évacuer, c'est de le process.
Oui, c'est ça, exactement. Puis après ça, là, je peux l'exprimer de faire comme, ah, tu sais.
Plate, ça.
Tu sais, j'étais, oui, mais c'est plate. Oui, mais t'as raison.
Mais là, le pire, c'est que je fais quand même ça aussi. Oui, oui. Là, j'ai l'air du monstre.
Oui, mais c'est plate parce que c'est long faire ça, puis ça nécessite que je dois me responsabiliser. Tandis que dans le acting out, c'est comme, c'est tout le monde, c'est mon environnement qui est le problème. C'est mon bébé qui crie, l'autre qui est arrivé en retard. Oh. C'est pas moi qui gère mal mes émotions en ce moment. C'est la culture, c'est vous autres. C'est mon entourage.
Un indice peut être quand quelqu'un s'excuse jamais d'avoir. Moi, je suis très dans la culture de s'excuser le plus possible. Que j'apprends, j'essaie d'apprendre à mon plus vieux fils aussi. T'sais, comme l'exemple de si papa s'excuse tout le temps, ça doit être parce que c'est la façon justement de non seulement l'assumer, mais de le process. Je suis pas juste un fruit. Là, qui,
non.
Non.
T'es un fruit qui s'excuse.
Je suis un fruit qui s'excuse. Puis.
Non, mais c'est vrai que ça peut être la faute des autres, soit.
Mais même si c'est la faute des autres, est-ce que je suis capable d'exprimer ma frustration de façon adéquate?
Non, mais dans le sens que.
Parce que des fois, c'est la faute.
Ils trouvent ça.
Ils trouvent ça quoi?
Ils trouvent ça que c'est la faute des autres.
OK.
Wow! C'est quoi ce podcast-là? C'est juste rendre Claude vraiment...
Non.
Une image absolument détestable.
Non, mais je veux dire, c'est souvent les autres le problème que tu pourrais trouver.
Attends, le problème, probablement, dans quelles circonstances de problème... oui, ben, des fois. Tu sais, je suis quelqu'un qui... On fait
normal,
des jokes avec ça, là, qui a tendance à avoir raison pour vrai, souvent. C'est un running gag, tu sais. Mon fils a hérité un peu de ça aussi, mais il a tellement raison, souvent. Tellement que j'y donne tellement souvent raison.
Ouais. Ouais.
Ah, c'est deux choses. Avoir raison puis penser d'avoir toujours raison, c'est deux choses. Il y a peut-être un peu des deux. Mais...
C'est ça, ça va te prendre ta gueule.
Parfait.
Parfait. Ouais.
Mais là, je ne sais plus où on allait, juste avant que j'aille tout le temps raison. Donc, c'était intéressant.
Mais c'est au niveau de... Si je prends le temps de regarder qu'est-ce qui me gosse vraiment, je vais déjà commencer à moins être en train de faire le acting out avec mon émotion. Puis si j'identifie qu'est-ce qui me dérange, est-ce que c'est quelque chose qui m'appartient? Puis, est-ce que c'est quelque chose qui appartient peut-être à comment j'ai été traité ou comment quelqu'un qui a fait quelque chose ou mon partenaire? Puis là, je peux aller en parler à l'autre de genre, tu sais, ce que tu m'as fait, ça m'a frustré, j'aime pas ça quand tu me parles de cette façon-là ou j'aime pas quand tu fais ça.
Oui, dire des vraies choses. Là,
oui, c'est ça, versus faire comme, ah, oh, je suis tellement tanné, là, tu fais ça, là, ça me gosse.
Relancer une balle full fort.
Oui, mais qu'est-ce que tu penses que tu vas avoir comme réaction? Exactement la même chose. Puis là, ça va te fâcher. Fait que là, tu vas encore plus argumenter ton point.
On pense à rien.
Ça sert à rien. Versus si j'approche l'autre de façon plus calme, ou tu sais, supposons que j'ai fait du acting out, puis là, je reviens, puis je fais comme, hey, c'était comme poche, tu sais, ma réaction, ce qui m'a dérangé, c'est ça. Puis ça se peut que bon, j'ai fait du acting out, c'était pas agréable, mais c'est quand même l'autre qui est responsable de mon acting out, dans le sens que c'est ça qui l'a provoqué, mais je suis toujours responsable. Oui. Est-ce que je fais du acting out ou est-ce que j'exprime mon émotion? Ça, c'est toujours ma responsabilité.
Oui.
Qu'est-ce qui a causé la situation? Ça peut être soit quelque chose qui m'a affecté moi puis qui m'appartient puis je dois le reconnaître, ou est-ce que l'autre a vraiment fait quelque chose puis est-ce qu'on peut avoir une discussion par rapport à ça plutôt qu'une argumentation sur ces éléments-là?
Fait que les deux peuvent coexister dans le sens où tu peux avoir eu ta réaction...
Initiale,
puis je pense le plus tu peux revenir dessus puis le
oui.
Que là, justement,
enfin, ton mea culpa que c'était malhabile de ta part d'agir comme ça.
Ça peut être magique. Là.
Oui.
Ouais.
Mais souvent, des fois, les gens sont comme, tu sais, ils veulent faire peut-être un retour, puis là, ils vont dire, tu sais, j'ai agi comme ça à cause de ton comportement.
C'est là, le retour, il...
Mais là, ça donne l'impression que c'est la faute de l'autre. Mais c'est ça, des fois, les gens ne font pas la distinction entre je t'explique la cause et je justifie mon comportement. Puis ça, c'est important à faire la distinction dans la discussion. C'est comme tu es en train de me blâmer. Ou tu es juste en train de m'expliquer que, ben oui, on a eu une interaction et mon interaction a fait que tu as mal agi, mais j'ai peut-être mal agi aussi. Ça n'a pas justifié ton action de me crier après ou de lever le ton ou peu importe, mais ça peut expliquer effectivement que comment je t'ai traité ou tu sais, tu me parles de quelque chose que c'est venu t'atteindre ou une insécurité quelconque. Ça ne justifie pas ton comportement, mais ça l'explique. Mais là, comment est-ce que je le présente c'est important aussi. Là. Est-ce qu'effectivement, je suis en train de te blâmer, puis je me déresponsabilise et je justifie ma réaction désagréable?
En balle déguisée.
C'est ça. Ou est-ce que je suis calme, je suis posé, puis je dis, tu sais, ça, ça m'a fait vivre telle affaire, j'ai pas apprécié ça, ça l'a parlé de moi de telle, telle, telle façon, j'aurais pas dû réagir de cette façon-là, mais je veux quand même adresser le comportement pour moi qui est comme problématique. T'sais.
Qui est ta... Tu sais, cet effort-là, parce que ça demande un effort. Des fois, t'as pas le goût d'être... T'as le goût d'être fru.
Oui, c'est vraiment le fun. C'est vraiment fou.
C'est ça, mais c'est que ça fait jamais du bien, au final. Là, on en parle. Ça donne vraiment... Ouais. Non, mais même sur le coup, au lieu d'avoir été fru, là, puis là, tu l'adresses, puis tu l'expliques, puis t'essaies vraiment de ton mea culpa, là, tu sais.
Mm-hmm.
Ça fait toujours plus du bien, même dans l'instantané, moi, je trouve. Puis après ça, c'est comme... Aïe, aïe, tu sais, puis... Au-delà de qui a raison, tu sais, je veux dire, là, tu viens de le fait de dire que j'ai pas eu raison d'agir comme ça, tu sais.
Mais juste de
ça
prendre...
te donne raison en bout de ligne d'avoir fait ce move-là, cet oui, effort-là. Oui. Tu sais.
Juste prendre le temps de penser à c'est quoi les intentions, tu sais. Moi, des fois, il faut que j'ai pas, mettons, le moment. Peut-être que j'ai parlé avant de penser à ça, là, mais. De vraiment réfléchir à c'est quoi mon intention derrière ce que je suis en train de dire en ce moment. Est-ce que c'est de le blesser? Est-ce que c'est de faire comprendre un point? Est-ce que c'est de...
Ouais, simplement, l'intention.
De réfléchir à mon intention derrière ce que je dis. Puis des fois, je fais, ouais, tu vois, là, c'était juste de piquer.
C'est comme la vision simple. C'est une bonne façon de voir ça simple.
C'est ce qu'on appelle quand tu as le goût de piquer là, ou de faire chier l'autre. Là. C'est en thérapie de couple, j'appelle ça le sadisme marital normal.
C'est quoi?
Le sadisme marital normal.
Yo!
C'est le sadisme marital normal. Normal,
ouais. Fait que le normal, c'est qu'on le fait tous. Donc, statistiquement, on le fait tous.
On le fait.
Ouais. Ça veut pas dire que c'est normal dans le sens que c'est sain et adéquat ouais, comme comportement. Comme... Marital, parce qu'on fait beaucoup ça dans des couples. C'est conjugal, là, mais on fait ça avec nos enfants. Nos enfants font ça avec nous. On fait ça avec des collègues, nos boss, nos amis. On fait ça avec tout le monde. Mais on le fait davantage avec des gens avec qui on est proche, puis c'est significatif parce qu'ils viennent plus nous atteindre. Puis le sadisme, c'est qu'on prend un certain plaisir ou une certaine satisfaction à créer de la souffrance, un malheur, une émotion négative. Ça. Non, faut pas. Mais on a la tendance rapide en tant qu'être humain à le faire. Puis l'exemple parfait, là, c'est puis un peu banal, c'est quand on regarde un film, puis le méchant qui est vraiment bête tout le long du film, perd, meurt, se fait humilier à la fin. On est tous contents là, qu'il y ait le méchant à la
fin.
C'est le petit sadisme. Mais on fait ça avec nos partenaires aussi. Des fois, notre partenaire, c'est lui l'antagonisme de notre histoire. Tu comprends? Fait qu'on prend une certaine satisfaction, puis on a... Quand l'autre vient nous toucher d'une certaine façon, soit qu'il nous a manqué de respect ou soit qu'il est venu toucher à l'insécurité de façon involontaire, mais que là, nous, on se sent heurté par ce qu'il nous a fait, le réflexe, c'est ben « m'en venger ». Puis c'est ça qu'on a tendance à faire, puis c'est le,
ça sert à quoi,
c'est
le réflexe. Ça vient de où?
Ben,
j'y vois aucune utilité.
Ben, c'est une forme de défense, parce que si je prends au niveau plus, comme par exemple une attaque physique, tu sais, des fois, on chamaille en tant qu'enfant, puis à un moment donné, tu manges un coup par accident.
Oh, ouais.
Qu'est-ce qui arrive? Tu veux juste frapper l'autre.
Ouais.
Puis c'est un accident. Oui, c'est un accident. Mais même si tu es en train de te chamailler, puis tu t'amuses, ça l'a fait mal, le retour, c'est comme « mais moi aussi, je vais te faire mal ». Mais psychologiquement, socialement, émotionnellement, c'est la même chose. Tu m'as blessé, m'as blessé.
OK, il y a un non-sens, mais c'est naturel. C'est absolument naturel.
Mais c'est ça. C'est une forme de défense qui s'est transformée puis qui a évolué
base,
différemment chez l'être humain.
Il faut faire la différence entre le coup qui n'a pas fait exprès.
C'est ça, exactement.
Fait exprès.
Oui, mais des fois, c'est ça. Mais des fois, l'autre nous a effectivement attaqué délibérément. Puis là, on attaque en retour. Ou des fois, on s'est juste senti attaqué. Puis tu fais comme, je vais me revenger. Aussi, tu sais, puis des fois, c'est comme l'autre m'a pas attaqué, mais c'est juste l'autre fait encore le comportement qui me gosse.
C'est
ça fait combien de fois j'ai dit, tu sais, de ramasser sa vaisselle, ramasser ses bobettes, pas faire ci, pas faire ça. Puis là, à un moment donné, t'accumules, puis t'es comme, m'a t'écrasé, mon petit. Ou ma petite,
ça.
Là. Ça va dans les, ça va dans les deux sens.
Comme on
là.
Disait au début, des affaires qui n'étaient aucunement, qui étaient aucunement des gossettes à la base. Je veux dire, moi, je me faisais un plaisir à ramasser son linge, mettons.
Ah oui.
Parce que je me sentais...
Plus maintenant.
Utile. Je me sentais... Ça renforçait mon moi qui se ramasse dans le bain. Ça peut virer en... Je suis fucking gossé.
C'est quoi les petites choses qu'on peut faire dans notre quotidien pour avoir un couple sain et florissant?
Je vais dire ce que ma belle-sœur a dit toujours, là. Gère ta fougère.
Gère ta fougère?
Gère ta fougère.
Le mot fougère a été choisi à cause qu'il rime. Mais ça vient de où, cette expression-là?
J'ai aucune idée, mais okay. Ça veut dire « gère tes émotions
».
Principalement, là, c'est vraiment de se gérer. Puis c'est comme, est-ce que tu es capable, d'avant de réagir, de juste prendre un pas de recul? Tu sais, un peu comme tu le disais tantôt, c'est quoi mon intention?
Ouais.
Comme, est-ce que c'est vraiment productif, là, qu'est-ce que je m'en vais faire? T'sais, est-ce que ça, c'est un irritant, puis je peux l'exprimer de façon adéquate pour que je sois collaboratif, puis que j'amène l'autre à être collaboratif avec moi, où je suis comme ultra comme combatif, je suis comme argumentatif, je suis comme dans l'attaque, je suis dans la défensive, je justifie mes comportements inadéquats, ou c'est comme, ben il y a plein de conflits, je les évite, puis à un moment donné, j'explose. Ça, c'est une autre tactique que les gens font, puis là, c'est comme toutes les banalités deviennent grosses, parce qu'on en a tellement accumulé, puis là, il faut parler de c'est quoi la dynamique en arrière de ça, mais c'est vraiment une question de, suis-tu capable de gérer mes propres émotions, les exprimer de façon adéquate, puis je suis capable de prendre un temps de recul avant de réagir, puis de comprendre pourquoi ça m'a fait réagir.
C'est tellement un bon truc, le pourquoi je le fais. Mmh. Comment on l'appelait? L'intention. L'intention, moi, c'est comme si... Parce que c'est compliqué, là. C'est tellement de choses, puis d'essayer de voir l'autre soi-même, puis le deep, pas deep, puis le... Mais c'est quoi l'intention? Là? Ça devient tellement simple et clair. Tu sais, quand, mettons, un conflit s'adresse, là, soudainement, mm-hmm.
Oui. Puis c'est pourquoi je réagis comme ça, mais même si, encore une fois, comme je disais tantôt, ce n'est pas... C'est pas... Ça ne m'appartient pas, puis ça l'appartient à l'autre. J'ai toujours une façon adéquate d'exprimer le problème et une façon inadéquate de l'exprimer.
Oui, c'est ça.
Puis ça fait toute la différence. Puis c'est pas parce que tu l'exprimes nécessairement de façon adéquate que tu vas avoir une bonne réponse non plus immédiatement. Ça se peut que l'autre, ça le mette tout de suite sur la défense.
Mais non, c'est ça.
Même si tu te responsabilises.
Ça marchera pas nécessairement.
Ou tu dis, tu sais, t'es calme, t'es posé, l'autre peut se sentir tout de suite sur la défensive, mais est-ce que je suis capable de rester calme quand l'autre ne l'est pas, puis d'amener l'autre tranquillement à redevenir collaboratif? C'est ça qui est difficile. C'est comment est-ce que je maintiens la collaboration quand l'autre ne m'offre pas ça pendant un certain temps?
Oui, puis t'as pas la personne, la tierce personne qui va vous obliger à vous donner un bec avant de parler. Comme j'ai un ami, c'était la loi, là. C'était si tu t'ostines avec ton frère, vous devez vous faire une colle,
mm-hmm.
puis après on va discuter.
Les parents, comme... ce qu'ils font avec leurs enfants, c'est qu'ils ont comme un gros chandail, genre X large, puis là ils mettent les deux. C'est pas trois
ça
enfants.
Pas à ça.
Ouais, les trois, deux.
Là, vous vous excusez d'avance,
ouais, c'est ça.
Après vous parlez. On devrait genre... s'excuser avant même.
Mais pas nécessairement, parce qu'il faut...
Sinon, ça part de son sens.
Oui, exactement. C'est que si je fais juste... Puis souvent, si t'es pas vraiment sincère, ton excuse, ça sert à rien.
Je m'excuse,
là. Tu sais,
la colle.
Oui.
Faites-vous une colle avant. Quoi que ce soit. Au moindre conflit. Le chandail 2X, large. Très bonne idée. Tout dépendant. Là,
c'est ça, on fait ça, maintenant. On se force à être dans des gros chandails.
Mais je suis dans avec le bisou, la colle, le moment de...
Ah oui, l'affaire de la colle de 10 minutes, là.
Oui.
Ça, on l'a pas fait comme
ça. On
faut,
l'a jamais fait, ça. Mais c'est long, là, 10 minutes.
Oui.
C'est ça, l'exercice. Si c'était pas long.
Est-ce qu'on peut être couché sur le côté pendant 10 minutes? Est-ce qu'il faut-tu être assis?
Tu peux, là, parce qu'il y a des gens, par exemple, qui sont, je sais pas, ils ont un handicap quelconque, puis ils n'ont pas le choix, ils ne veulent pas la faire debout, là, mais le fait de le faire debout, ça rajoute une composante que tu n'as pas quand tu es couché.
OK.
Parce que le fait de le faire debout, il faut que tu te tiennes littéralement sur tes deux propres jambes, puis ça joue dans la dynamique relationnelle. Suis-tu capable de me tenir sur mes propres jambes de façon...
Oui, c'est différent.
Comme une métaphore, là. Tu sais, can I, you know, stand on my own two feet, comme on dit en anglais. Puis souvent, c'est ça, c'est que dans la collade, des fois, il y a une personne qui va comme mettre son poids sur l'autre, par exemple. Juste gérer le balance, en fait, que je dois avoir. Comment je gère, justement, l'inconfort pendant le 10 minutes? Parce que, tu sais, souvent, dans un conflit, je suis inconfortable. Mais comment je gère mon inconfort, même si cet inconfort-là, il est physique? Dans un conflit où ce que c'est émotionnel, notre inconfort, il est aussi physique. Je vis mes émotions de façon physique. Ce ne sont pas dans ma tête mes émotions, c'est mon corps qui va les exprimer.
Mm-hmm.
Donc, tu sais, si je suis fâché, j'ai la mâchoire qui est comme, tu sais, qui est tendue, je vais avoir les poings tendus. Si je suis relax, ben je suis relax dans comment je suis assis ou comment je suis debout. Si je suis stressé, ben tu sais, je suis comme pas bien, moi, je respire comme ça. Fait que c'est un peu ça le but de la colère, c'est de représenter la dynamique que vous avez dans des conflits, dans votre sexualité, par exemple, parce que tu as la même proximité que dans une relation sexuelle, tu es comme pris corps à corps, mais j'ai pas toute le conflit qui me distrait. J'ai pas toute la sexualité de, tu sais, je veux faire plaisir à l'autre, puis je veux avoir mon orgasme, puis je suis juste concentré sur moi et qu'est-ce que je vis avec l'autre pendant le 10 à 15 minutes.
C'est ça que je veux sortir. J'ai entendu parler de ce que tu avais dit dans le podcast. Pour ceux qui l'ont pas vu, là, moi, je me trompe. Ça sert à quel moment?
À différents moments. Fréquence. Donc, ça sert à... comme le but de l'activité est autant une activité comme de diagnostic de votre dynamique,
okay,
au niveau de vos conflits.
C'est ce que tu vas avoir ressenti pendant ces 10 minutes-là?
Oui, ou... ce que tu as ressenti, à quoi tu pensais, comment tu te sentais dans ton corps et qu'est-ce que tu as eu comme de... C'est quoi la vibe que tu avais de l'autre?
Okay, c'est pas une thérapie.
Non, c'est ça. Qu'est-ce que tu ressentais de l'autre personne? Fait qu'il y a un aspect diagnostique, mais il y a un aspect aussi pratico-pratique où plus je la fais, plus j'apprends quelque chose.
Okay.
Donc...
Pas comme ça, c'est pas ça que je pensais. Tu vois,
ouais,
c'est
mais la dernière fois, je l'avais expliqué quand même assez rapidement, là, parce que c'est quand même assez long à expliquer, mais c'est autant pour travailler ce qu'on appelle l'équilibre émotionnel dans les conflits. Donc, est-ce que je suis capable de tempérer mes émotions? Est-ce que je suis capable de prendre un temps de recul? Est-ce que je suis capable de juste me connaître moi-même en tant que personne, puis pas toujours avoir l'impression que genre mon identité, puis mon ego, puis mon orgueil est menacé, que je dois toujours la défendre et argumenter? Puis, il y a l'endurance significative de « suis-tu capable de tolérer un certain niveau d'inconfort qu'on va avoir dans la sexualité et qu'on va avoir dans un conflit. » Et donc, tout comme dans la sexualité, la proximité, être présent à soi, avoir notre tête qui est comme avec l'autre personne, de ressentir moi-même, ressentir l'autre, ben, c'est aussi une activité ou des choses qu'on doit faire pour améliorer notre sexualité. Donc, ça a autant... un bénéfice au niveau de comprendre sa dynamique au quotidien que de comprendre sa dynamique au niveau de la sexualité et de la travailler. Donc, plus souvent qu'on fait la collade, plus qu'on apprend, en fait, à mieux gérer ses émotions.
Fait que c'est un diagnostic, mais qui sert... Quand tu comprends des choses, finalement, ça devient un peu une thérapie aussi.
Oui, c'est ça, mais c'est un outil thérapeutique, là. Donc, souvent, moi, je vais faire une évaluation sexologique, psychothérapeutique dans les premières séances. Puis c'est une des premières activités que je propose pour mieux comprendre encore plus la dynamique du couple, mais aussi pour améliorer, en fait, leur dynamique en même temps.
On l'a pas fait une fois, mais on devrait essayer. Vous devriez essayer.
Mais c'est très confrontant comme exercice.
Ben, c'est ça, mais ça, mettons que ça, tu le sais. Que c'est confrontant, parce que là, tu me l'as pas amené de même. Moi, j'étais comme, mais là, ça va gosser.
Ben, je voulais...
Ça me dérange pas. Ça me dérange pas, ouais, aucun problème. J'étais là, mais c'est quand même long.
Mm-hmm.
Puis là, c'est le debout. Puis là, tu sais, il faut comprendre ça sert à quoi. Là. Probablement, c'est confrontant, puis ça sert à ça.
Ouais.
C'est un diagnostic.
Qu'est-ce que tu penses que nous, ça ferait? Qu'est-ce que ça va faire, tu penses?
Tu sais comment je suis pas spéculateur. Ouais. J'aime ça, le vivre les affaires avant d'en parler.
D'accord. On en reparlera au prochain épisode.
On en reparlera quand on l'aura fait.
Ouais, bonne idée.
Mais ouais, on va le faire, c'est une bonne idée. C'est une très bonne idée. Toi, personnellement, là, ce serait quoi ton... C'est très personnel. Qu'est-ce que tu penses qui vaut la peine d'un couple?
Tu peux peut-être clarifier parce que ça va
vite,
ta question.
On va vite vers le... Hey, tu sais, le monde se laisse, le monde devient célibataire acharné, tu sais... Faut être motivé pour être en couple. Ça a des notions pratiques, là, comme t'as un enfant, deux à s'en occuper, un nid familial. Mais dans la nature, on est un peu programmé aussi pour être en couple. C'est comme ça que la race persiste et tous les animaux.
Mais ça, ce serait quoi? Il regarde tous les aspects de sa vie puis il se dit, c'est quoi, quel sens ça fait dans la nature?
C'est parce que souvent, voyons, pourquoi ça existe? Puis là, je vais aller le plus loin possible. Il y a 300 000 ans dans notre sapiens en devenir. Pourquoi? Tu sais? Puis on dirait que ça m'aide à dealer avec ce qu'on a. Là. OK, là, on est dénaturé là-dessus, mais ça, à la base, c'était ça. OK, tu sais, c'est comme une équation. J'ai l'impression que c'est plus pratique.
Ma réponse, ça serait peut-être, tu sais, c'est quoi le sens que tu donnes à cette relation-là? Puis souvent, les gens sont en couple parce que ben c'est ce qu'il faut faire.
Ouais.
Faut être en couple, faut faire des enfants. Puis,
socialement, ça qui est ça.
Oui, c'est ça. Faut suivre la tendance, mais c'est comme les gens ont arrêté de se. Ils l'ont peut-être jamais fait aussi, là, mais on donne pas vraiment de sens à la relation qu'on a. Parce que plus qu'on donne un sens aussi, autant que c'est bénéfique pour le couple, c'est paradoxalement très épeurant. Et donc, plus je donne un sens à ma relation, plus elle devient significative, plus je m'engage là-dedans,
ouais,
plus j'ai à perdre. quand cette relation-là va se terminer inévitablement.
Soit quoi?
Donc, soit qu'elle va se terminer par une rupture parce qu'on ne s'entend plus ou on a fait ses chemins à part puis on a décidé qu'on bon, en couple, c'est pas ce qu'on voulait. On voulait des choses différentes. Ou comme il y a quelqu'un qui va mourir. Puis là, le deuil que tu dois vivre face à ça est beaucoup plus important et difficile que si je ne me suis pas investi, j'ai pas vraiment donné de sens à cette relation-là. Là, au revers, tu vis en fait le regret de ne pas l'avoir investi. Mais... mais c'est comme plus facile au quotidien de faire comme, regarde, je vais juste, tu sais, go with the motion. Puis, tu sais, ben oui, j'ai un conjoint, j'ai une conjointe, j'ai des enfants. Puis, tu sais, c'est pourquoi bien des gens dans la quarantaine font un midlife crisis. Là. C'est parce qu'ils réalisent, hey,
on est allé plus loin dans la réflexion.
J'en ai pas de sens. Là. Puis, qu'est-ce que je fais là? Puis, pourquoi je suis avec cette personne-là? Puis, pourquoi je fais ce travail-là? Puis, pourquoi j'ai eu des enfants? Puis, je les aime-tu vraiment, mes enfants? Je les apprécie-tu? Puis, mon conjoint, ma conjointe.
C'est un gros réalité check.
Oui, c'est ça. C'est souvent là que, tu sais, c'est un peu à la moitié de notre vie, etc. Fait que souvent, les gens se questionnent un peu à ces moments-là. Fait que, puis, il y a souvent des moments, tu sais, clés, genre, tu sais, nos enfants, tu sais, ils ont fini l'école, ils ont peut-être déménagé.
Ça reset,
ouais, c'est ça, le nid vide, là, d'info, là, qu'on appelle. Fait que ça nous porte à question. Fait que, pour moi, c'est ça, tu sais, le message que je donnerais, c'est quoi le sens que vous donnez à votre relation? Puis, faut que ça soit vraiment une réflexion profonde, puis plus vous allez approfondir la réflexion, plus ça va être chargé émotivement, puis plus ça va vous faire peur, ironiquement. Puis, mais plus aussi, ça crée un certain sentiment de bienveillance envers l'autre, envers notre entourage de façon générale, mais aussi un bien-être. Mais ça vient avec des peurs aussi, puis des insécurités qu'il faut travailler.
De quoi provoquer une crise de la quarantaine chez des gens, peu importe l'âge.
Mais la crise de la quarantaine, c'est quasiment comme un... C'est un passage obligatoire, tu sais.
Oui,
tu peux mal gérer ta crise, puis t'acheter des affaires, puis tu sais, flober ton cash dans toutes sortes d'affaires.
Changer ta
vie
d'un coup.
Tu sais, devenir infidèle, changer complètement ta vie, tout, parce que tu veux pas vraiment faire la réflexion en bout de ligne, tu sais. Mais c'est souvent les stratégies que les gens font pour se débarrasser de l'émotion négative que ces questionnements-là amènent. C'est comme je vais remplir ma vie de façon superficielle sans vraiment me poser la question, mais la crise, elle est tout à fait nécessaire pour prendre la maturité dans son couple, dans sa vie individuelle, etc.
Bon, ben,
tu le gères plutôt bien. Il y a eu 40 ans cette année.
C'est parce qu'en plus, c'est
non,
ça.
Mais ça commence là.
Ah, oups!
Oui, mais j'ai l'impression que j'ai eu ma vie adulte assez tôt. J'ai eu un enfant assez tôt aussi. Fait que là, c'est comme très... Ben, chacun sa crise de la quarantaine, mais puis là, finalement, j'ai un bébé. Fait que c'est sûr que c'est comme... Je vis plein de choses parallèlement. Là. Des fois, j'ai même eu l'impression que... Tu sais, des fois, t'as un switch de dimension. C'est pas que tout le monde vit dans une, puis que là, je passais dans l'autre, puis que toute ma vie dans l'autre dimension continue. Mais ça peut donner un genre de vertige dimensionnel.
Ah ouais.
Littéralement. Mm. Ben, c'était une bonne... c'est un bon cue, le sens du couple qui existe et qu'on veut que ça existe.
Ouais.
Merci.
T'en fais plaisir.
Merci beaucoup. Fait qu'on se revoit la semaine prochaine, même heure.
Oui, oui.
Merci. OK, oui, là, on avait fermé les caméras, mais quelque chose que tu as dit par rapport à l'accolade.
Oui, donc ce que j'avais pas mentionné, c'est qu'il faut, une fois qu'on a fini l'accolade, il faut discuter, en fait, de l'accolade par la suite. Puis on termine l'accolade quand nous, on veut la terminer. C'est pas un timer qui la termine.
Oh.
Donc ça aussi, c'est important.
Je m'enlignais vraiment mais à mettre un timer.
Oui, donc pourquoi je la termine? Pourquoi là, je sens que j'ai fini?
Attends, c'était-tu 10 minutes ou il n'y a pas de temps?
Moi, j'ai 10-15 minutes pour donner un approximatif.
Il y a un minimum,
pour vivre. Mais il n'y a pas de minimum, c'est juste pour vivre un délai approximatif pour vivre l'expérience.
OK, ça aussi, c'est digne de mention.
Mais c'est toi qui décides quand je la termine, la collade. Parce que pourquoi je la termine est très significatif aussi. Comment je me sens que c'est moi qui la termine? Comment est-ce que l'autre se sent qu'elle est terminée quand eux ne voulaient peut-être pas la terminer
à ce moment-là. Ça vient souvent en battle de qui va arrêter en premier?
J'ai déjà des gens qui... c'était pas cet exercice-là, c'était un exercice de se regarder dans les yeux, mais c'est la même chose. Et ont perduré pendant 25 minutes parce qu'ils ne voulaient pas être la personne qui mette fin
comme,
au regard.
Dans sa respiration, tu
il y avait beaucoup de compétitivité dans cette dynamique-là. Fait que c'est ça qu'on a comme ressorti.
Ben oui.
Vous n'étiez pas là pour être ensemble, vous étiez là pour comme compétitionner l'un contre l'autre.
Et la compétition dans les couples.
Mais je ne peux pas m'imaginer qu'est-ce que vos relations sexuelles ont de l'air.
La compétition dans la relation sexuelle?
Ben oui. Mais oui, la compétition dans les couples.
La compétition, ça existe.
Oui.
Ça peut être. Ça peut être. Ça peut ne pas juste être négatif. Ou non, ça peut être négatif.
Ça dépend comment tu gères.
Tout
ça. Tu peux avoir de la bonne compétitivité.
Ça dépend pourquoi.
Mais ça dépend comment tu la vis, la compétitivité. Ouais. Bon, qu'est-ce qui la motive?
Merci. OK, il y en a un qui arrête, puis c'est important d'en parler après. Très important.
Parfait. Moi, je sais déjà comment ça va se passer. Je vais arrêter en premier pour être celle qui a le contrôle sur la collade.
Fort, très fort.